Vous écoutez
RMC. RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Excuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là. L'after est là comme tous les soirs, du lundi au dimanche, jusqu'à minuit. C'est la nouvelle saison de l'after, nouveau décor. J'allais dire nouveau consultant, absolument pas. Ils sont là déjà, les tauliers. Jonathan Macardy est là. Rebonsoir, Jonathan. Ludovic Aubragnac. Attention, parce que t'as dit quoi là? D'accord, ma mère écoute l'after. Et quand tu m'appelles mon petit canard, mon bichon, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe entre Jonathan et Nicolas?
Oh!
C'est une amitié quand on naître, maman. Ludovic Aubragnac est avec nous. Ludo, il regarde. T'es passé par là aussi, on est d'accord.
Ouais, ouais, mais bon. Regarde-moi maintenant.
Tu vois, il a grossi. C'est pour ça qu'il a pris 3 kilos.
Messieurs, c'est un moment important de l'after. Il en reste une chronique qu'on va vivre pendant 10 jours encore. C'est le Mercato Show. Jingle, Mercato Show.
C'est combien?
30 000.
Attends, je vais te le marchander.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber.
Je m'invite pour qu'on ait un...
Alors, vous savez que ça, c'est le jingle historique. Le plus vieux jingle, comme le dit Gilbert Bribois, de l'After Foot, hein, donne-moi 30 000. Vous savez que dans l'After, on a lancé cette saison un nouveau jingle Mercato.
Tu crois quand même pas que je vais me manger pendant cette patate de merguez?
Ben, c'est un vrai débat qu'on a au sein de la rédaction. Faut-il supprimer celui qu'on vient d'écouter?
Un peu des deux.
Tu penses pas?
Moi, j'aimerais un petit jingle Oussem. Oussem arrive.
Oussem, moi, j'en ai un jingle pour Oussem. Non.
J'aimerais un petit jingle
Oussem.
J'aimerais un petit jingle
Oussem. Le jingle Oussem, ça doit être Christina Cordula.
Écoutez, le nouveau jingle Mercato Show.
Et comment c'est? Je te dois 120 000 francs. La frite, elle est à 8 francs. La saucisse, à 12. Avec un coca, ça fait 30 francs. Écoute, tu peux venir déjeuner chez moi quand tu veux. Et le café, c'est moi qui l'offre. Je vais pas me taper pour 12 patates de merguez parce que je passe sur mon pognon.
Bien sûr, film légendaire.
Pour Oussem, le générique, ça doit être Christina Cordula qui dit t'es magnifique, mon chéri, ça lui va bien, ça.
Magnifique.
Je sais pas comment
le. Voilà, donc on va trancher le débat là. Je crois que Gilbert a une préférence pour le dernier. Moi, j'aime bien l'historique.
À nos auditeurs, on garde l'ancien.
On tourne.
Mais on peut le prendre un peu celui-là de temps en temps.
Comme si la peur était une démocratie, c'est Gilbert qui va trancher au final, tout le monde le sait.
Absolument pas. Non. Absolument. Gilbert nous écoute.
C'est le leader Maximo.
Bonsoir, Oussem Loussaïef.
Bonsoir, messieurs. Ça me fait plaisir d'être avec vous.
Si vous regardez RMC Sport News, voilà, vous découvrez le style d'Oussem. Thierry, t-shirt Jules.
Alors,
et pantalon Célio.
Faut citer troisième marque, mais bon, c'est Zara. En fait, de la tête aux pieds. Fait du très simple.
Oussem pour le Mercato Show. Salut Oussem.
Salut.
On recommence par un petit rappel, évidemment, on en parlait il y a quelques instants, mais c'est la grosse info Mercato de la journée. Renato Sanchez est Lillois.
Et oui, une info officielle depuis quelques heures seulement. Le joueur de 22 ans arrive donc à Lille. Contrat de 5 ans pour l'international portugais et on parle d'une indemnité de transfert se situant autour de 25 millions d'euros, bonus compris.
Magnifique. On a tout dit déjà dessus.
Ouais, on avance. On enchaîne avec Monaco qui se renforce défensivement.
Ah, deux arrivées. Une première au milieu de terrain, un prêt sec qui vient de Leicester. C'est Adrien Silva qui a été prêté la saison dernière du côté de Monaco. Et puis un défenseur que tu connais très bien, mon ami Jonathan, Guillermo Maripán qui vient d'Alavés. Et là, on parle d'une indemnité de transfert.
Maripán, on dit
Maripán.
Maripán.
D'accord.
Maripán. On parle d'une indemnité de transfert de 15 millions d'euros cette fois-ci. Bon, je te vois hocher de la tête, Ludo.
Ouais, attends, vas-y, Ludo, après, va pouvoir sortir
de
lance-flamme.
Je vois qu'il loge de la tête.
Vas-y, Jonathan.
Vas-y, Jonathan.
Beaucoup de mal à m'intéresser à ce qui se passe du côté de l'AS Monaco. Enfin, c'est
illisible.
C'est terrible. Honnêtement, c'est
alors
terrible.
Après, Jonathan, je vous donne des précisions.
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait que Monaco se renforce derrière parce que c'est plus possible. On a vu qu'il prenait l'eau. Alors, pour parler de Maripán, c'est un joueur qui a 25 ans, qui s'est imposé, qui est titulaire avec la sélection chilienne. On sait que le Chili, c'est une sélection qui est très solide défensivement. Lui, il est très bon. C'est vraiment en train de devenir dans sélection le patron de la défense.
Est-ce qu'il est comme Benedetto ou aussi bon ou pas?
Je l'ai pas trouvé si fort pendant la Copa América.
Laisse-lui un peu de temps, Benedetto.
Très grand joueur, lent.
Je t'embête.
C'est ce que j'allais dire là-dessus.
J'attends de voir.
C'est ce que j'allais dire là-dessus. Après, c'est un défenseur qui est pas très rapide. On va pas se cacher.
C'est ça.
Qui est bon au duel, mais qu'il va falloir un petit peu qu'il se calme, parce qu'il a tendance à faire des fautes un petit peu grossières.
Ah, c'est
très
bon la tête avec sa tête. C'est clic. Pas très rapide, bon dans le duel.
C'est clic. Jeune. Après, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a passé toutes les étapes de sa carrière avec beaucoup de succès. Il était à la Houe avant, il arrive en Europe à Alavés, il se met au niveau, il devient très bon. Il va en sélection, il s'impose en sélection, ça devient un petit peu aller parce que Gary Medel est vieillissant, mais ça devient vraiment un petit peu le taulier de la défense. Donc je pense que c'est un joueur qui est en pleine progression et c'est un coup à faire. Après, est-ce qu'il va réussir à Monaco? On verra.
Petite info pour rebondir sur ce que disait Ludo, c'est 46 mouvements cet été du côté de Monaco entre les arrivées et les départs. On est sur une fourchette de 115 millions d'euros dépensés et 99 millions récupérés. On le rappelle, ils ont vendu.
Je dois pas être le seul, mais si tu veux, à un moment donné, je m'y intéresse même plus. Il y a aucune cohérence, c'est toujours fait dans la précipitation, en fin de mercato comme ça, parce que finalement t'as pas eu les résultats escomptés sur les deux. Je comprends plus le projet monégasque et je ne m'y intéresse plus.
Tu sais ce que tu dis, c'est très juste. Ah, ça fait plaisir que tu sois revenu. C'est très juste parce qu'en fait, tout ce qui se passe avec Monaco, tous ces mouvements, en fait, ce supermarché, ça désincarne totalement ce club-là. T'as l'impression que le club, c'est plus un club.
Non, mais là,
tu n'as plus la personnalité de Monaco. C'est juste une caisse enregistreuse. Ouais, mais... Voilà. Et là, les supporters monégasques qui sont quand même nombreux, pas forcément Monaco, mais dans toute la France, on le sait, c'est un club qui a ses supporters répartis sur l'ensemble du territoire. Je me mets à leur place et je donne malheureux parce que.
En fait.
Qui représente Monaco à l'heure actuelle.
Et tu vois,
joueur.
En fait, j'étais content.
Quel joueur?
Wissam Ben Yedder, c'est un joueur que j'adore.
Ça, c'est bien.
Mais je suis malheureux.
Et tu demandes pourquoi?
Ruben Aguilar, c'est un joueur
pourquoi
que j'adore. Mais pourquoi vous avez été là-bas?
Non, mais pourquoi? Mais
alors, si tu veux, ça me désole. Je suis désolé, mais je n'arrive plus à m'intéresser à ce qui se passe à ce Monaco.
T'as l'impression que Monaco fait du panic buying depuis un mois et demi, en fait. C'est depuis le début du mercato. C'est exactement ça. Ils sont en pleine panique. Il faut absolument construire quelque chose.
Ils
vont vendre un max de joueurs. Il faut en recruter également.
Ils ont combien c'est incroyable.
Bah, ils en avaient quasiment zéro parce que Falcao devait partir. Moi, j'étais là il y a à peine 3 semaines. Je suis parti.
Alors ça peut encore se faire. Hein.
Voilà.
Le départ de Falcao du côté de Galatasaray,
bien
ça peut
sûr.
Encore.
Bah, lui, il veut partir toujours.
Lui, il a un accord avec le club.
Tu es passé de 0 à 4 en une semaine.
Mais non, ils sont pas 4, ils sont plus nombreux. Il y a Pellegrini, il y a le
Sylla,
il y a le Sud-Africain là. Ils sont 8 avant-centre. C'est incroyable.
Voilà pour l'AS Monaco. Direction Olympique Lyonnais. Le président Jean-Michel Aulas prend la parole sur le cas Tatarusanu.
Et oui, c'est une polémique qui est née après les déclarations de Cosmin Contra, le sélectionneur de la Roumanie, qui avait dit dans une interview que son gardien de but avait eu la promesse d'être le numéro 1 du côté de l'Olympique Lyonnais en cas de départ d'Anthony Lopez. Et donc Jean-Michel Aulas a pris la parole aujourd'hui, il est revenu sur ces déclarations-là et il a affirmé que personne n'avait eu de promesse sur le rôle de numéro 1 et que pour un grand club européen et ambitieux, c'était important d'avoir deux gardiens internationaux.
Attends. Dans ce que tu dis, Tatarusanu avait eu la promesse d'être numéro 1 en cas de départ d'Anthony Lopez.
Mais il devait partir cet été. C'est ce qu'on lui a dit en cas de départ.
Bon, il est pas là, la promesse est tenue.
C'est ce qu'on lui avait dit. Et donc, il est même question peut-être d'un prêt de Tatarusanu avant la fin du mercato.
Mais non, mais ce serait un échec terrible.
En période de négociation
pour une prolongation,
c'est désastreux.
De toute façon, mettre la pression à Anthony Lopez.
C'est désastreux pour le gardien qui a cru. Qui a bu les paroles des dirigeants de l'Olympique Lyonnais.
Le pauvre, il a servi.
Mais comment tu fais
l'instrument?
Comment tu fais? Tu sais pas si ton gardien titulaire, il va rester ou pas. T'es obligé de convaincre un gardien d'un niveau assez bon pour pouvoir éventuellement le remplacer dans l'immédiat en lui faisant miroiter qu'il pourrait peut-être être le numéro 1. Et tu peux pas faire autrement. Comment tu fais? Sinon,
Comme disait Nico,
qui viennent en disant on est sûr d'être numéro 2.
Comme disait Nico, c'est Lopez qui mène le bal puisqu'il a toujours pas prolongé.
Victime collatérale.
Alors, c'est terrible pour lui, mais c'est comme ça.
Oussem, en conférence de presse, Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, a parlé du mercato, et notamment d'un joueur qui pourrait faire son retour à Rennes.
Eh oui, Joris Niagnon, un an seulement après avoir quitté le Stade Rennais. Et il est parti du côté du FC Séville, ça n'a pas forcément marché.
Non, pas du tout.
Alors, il est actuellement à Rennes en train de passer sa visite médicale. Ah. Il devrait être prêté, donc, toute cette saison au Stade Rennais.
Bah, c'est bien pour lui, parce que quand il est parti, rappelons-nous de tout ce qu'on disait, de tout ce qu'on entendait du côté de Rennes, sur Joris Niagnon, futur défenseur de l'équipe de France, grand talent. Bon, au final, écoute, à Séville, c'est vrai que ça s'est pas du tout bien passé, et cet été, c'est pas vraiment distingué de la meilleure des manières.
Hein. Ouais.
Il a fait un petit atelier d'écarissage, découpage, boucher, tranchage, ce que tu veux. Et ça peut être bien pour lui de revenir dans un contexte qu'il connaît bien. Moi, pour moi, il est parti trop tôt de Rennes. Vraiment, il est parti, 2 ans trop tôt de Rennes. Donc voilà, s'ils arrivent à le récupérer, pourquoi pas. C'est un joueur à relancer, mais il a du talent en tout cas. Et ils ont besoin d'un défenseur. Et surtout Rennes, ils n'ont pas besoin juste d'un défenseur, ils ont besoin de recruter à tous les postes presque.
T'as pas intégré un nouveau mec, il connaît la Ligue 1, il connaît le club, tu gagnes du temps évidemment. Et Joris Niagnon. L'offre de Nantes pour Blas également.
Et oui, le FC Nantes s'est positionné sur Ludovic Blas, qui, on le rappelle, est du côté de Guingamp, descendu de Ligue 1 à la Ligue 2 avec Guingamp. Et Nantes cherche un remplaçant, un ancien Guingampais, Marcus Coco, qui s'est blessé, on le rappelle, rupture des ligaments croisés. Une offre a été faite, 5 millions plus 5 millions de bonus. Et pour l'instant, Guingamp n'a toujours pas répondu à cette offre.
C'est un joueur qui mérite la Ligue 1 de toute manière.
Remplaçant Marcus Coco, c'est pas un joueur qui joue sur le côté, Ludovic Blas.
Ça lui arrive quand même.
Ouais,
on l'a vu sur la fin de saison avec Guingamp, c'est pas...
Oui, c'est vrai qu'il joue aussi dans l'axe.
Hein, il est quand même plus efficace dans l'axe que sur un côté.
Le Média Football Club est en train de se déliter là, t'as vu?
Non, non, jamais.
Est-ce qu'il serait pas, finalement, on anticipe aussi un futur départ de Valentin Rongier finalement?
C'est pas le même profil aussi. Vraiment, non,
c'est pas le même profil, mais ça joue au milieu de terrain.
Je rappelle que dans un instant, on sera avec trois drôles de dames, messieurs, Simone Rovera, Julien Laurence et Fred Hermel, qui était en conférence de presse, celle de Zinedine Zidane aujourd'hui.
L'homme qui murmurait à l'oreille de Zinedine Zidane.
Ne dis rien,
Tu vas avoir des problèmes. Dis pas ça.
On va le perdre,
Fred. C'est que le début de saison.
En tout cas, Fred était en conférence de presse aujourd'hui. Et il a entendu des choses. Il a même posé des questions. Et d'ailleurs, Zinedine Zidane a répondu en français à Fred Hermel. Et ça, c'est la chance qu'on a du côté des RMC. Et il a été question de Keylor Navas. Alors, on sait qu'il avait été imaginé dans un éventuel deal avec Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Très courtisé. Et Zinedine Zidane a pris la parole. Hors de question de perdre Keylor Navas. Il dit même, je veux aller gagner des trophées avec Keylor Navas.
Ah, mais toi aussi, d'ailleurs, je fais partie du fan club de Zizou.
Mais moi, je suis un inconditionnel.
Tout le monde aime Zizou.
Presque. Il joue son rôle. Est-ce que Keylor Navas a envie d'être la doublure de Thibaut Courtois toute sa carrière?
Lui, il serait pas contre même un départ du côté du Paris Saint-Germain.
Lozano a signé son contrat à Naples.
Et oui, un joueur que tu apprécies aussi, Jonathan. Erwin Lozano, 24 ans. Il quitte le PSV Eindhoven contre un chèque de 42 millions d'euros et lui rejoint les Napolitains pour 5 saisons.
Ça faisait longtemps que c'est dans les tuyaux, ça. Hein.
Ouais, c'est désormais officiel, mais ça fait depuis.
Bon, généralement, quand le Napoli se positionne, le joueur est très bon.
Ouais. C'est un bon joueur.
International mexicain. Donc je connais un peu.
Napoli fait jamais de vraie folie. Le président est quelqu'un de raisonnable. S'ils investissent 40. Lourdement sur un joueur, c'est que le joueur a de la qualité.
Dernière info, elle concerne Rafael Guerreiro.
Alors Rafael Guerreiro, on sait que le Paris Saint-Germain s'intéresse à son profil, au joueur. Et une dernière indication, il n'a pas figuré dans la feuille de match ce soir face à Cologne. Il a été écarté puisqu'il n'a pas accepté encore la prolongation de contrat de Dortmund. Et donc ça peut donner un indice. C'est un arrière-gauche.
Arrière-gauche
de formation, mais qui peut jouer aussi au milieu de terrain. On l'a vu évoluer au milieu de terrain. Et qui peut aussi jouer latéral droit. Donc voilà, il n'est pas dans le groupe ce soir. Il n'a pas encore prolongé.
Est-ce que ta défaillance, elle est plus sur ton côté gauche ou sur ton côté droit?
Bah, c'est à droite qu'il faut recruter.
Bah,
C'est à droite, t'es un peu à poil quand même. Tu vas pas faire la saison à Kerrer et Meunier.
Mais c'est super Kurzawa.
Mais si tu perds Kurzawa, bon, à la rigueur, t'as quand même Bernat qui a quand même fait le taf côté gauche. Mais là, t'as au moins un titulaire. Côté droit, je suis désolé, mais t'as aucun des deux joueurs qui a niveau pour être titulaire.
Tu considères pas Meunier comme un titulaire?
Mais pas du tout. Mais Thomas Meunier, il a la ramasse depuis 2 ans. C'est encore une fois ça, c'est le syndrome Valère Germain. C'est un joueur qui parle bien, les médias l'aiment bien. Non, mais en fait, il est nul, je suis désolé.
Non, il est pas nul.
Il est bon, mais comment tu peux dire qu'il est nul?
Il est fou, ce mec.
Mais c'est n'importe. Enfin, là, tu expliques.
Thomas Meunier,
est-ce que tu connais? Thomas Meunier est nul.
C'est un bon milieu.
Et cadre dans sa sélection.
Et combien gagne Thomas Meunier? Parce que tu nous avais dit 300 000.
Je sais pas. C'est un bon milieu de terrain, peut-être, ou c'est un bon défenseur latéral dans une défense à 5.
Attention, Jonathan.
Mais il est pas
David Tranchet.
Mais c'est trop David Tranchet. Il peut jouer dans une défense à 4.
Tu peux pas laisser dire qu'un joueur est nul.
Non, si ça, on peut le dire, ça.
Non,
c'est l'after, on peut le dire.
Un joueur est nul.
Mais là, ça me semble, il est clairement disproportionné.
Ce que je veux dire, c'est que, voilà, il a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain.
Ah, c'est autre chose.
Mais le PSG joue tout le temps dans une défense à 3 avec deux latéraux super hauts, pourquoi pas. Mais il sait pas défendre, Thomas Meunier. Je suis désolé. Il sait pas défendre.
Le Borussia Dortmund qui a gagné 3-1 ce soir, c'est un peu de Cologne. Il s'était mené 1-0. Victoire de Jadon Sancho, Hakimi et Alcacer également.
Attention, le Borussia. Qui a marqué pour Cologne?
Drexler.
Cologne qui est mené 1-0.
T'as combien de potes à Cologne?
Un seul.
C'est qui?
Modeste. Anthony Modeste.
Évidemment.
Modeste, bien sûr.
La chanson Modeste. Hein,
il dira la même chose. Célèbre chanson. Le Média FC jouera. Et tu
de la Bundesliga. Le Borussia, attention, le Borussia. Hein. Presque favori pour le titre de champion. Hein. Effectif plus impressionnant encore que celui du Bayern Munich. Oussem, c'est terminé.
C'est tout pour moi.
Tu reviens demain?
Avec plaisir.
Veste.
Je vais changer, mais dans le même style.
Paco Rabanne. Tu fais quoi?
Non, ça c'est des grosses marques.
Cette petite veste de smoking.
Avec mon grand salaire de RMC, je peux pas me permettre de payer des Gucci et des.
Oula. Non, l'ironie.
C'est magnifique.
Faut bien manier l'ironie, magnifique. Attention.
Magnifique.
Ça rigole en régie. Merci Oussem, excellente soirée à toi, tu peux rentrer à la maison.
Allez, bonne soirée à vous messieurs.
Ciao.
En footing, pour être bon ce week-end.
C'est vrai, et même en arrière aussi, je vais courir.
Merci Oussem. Dans un instant, trois quarts d'heure de drôle de dame, le régal. Simone Rovera, Julien Laurence et bien sûr Fred Hermel, Zidane notamment, Arsenal Liverpool au programme également. Et surtout messieurs, le coup d'envoi de la Serie A. Est-ce que la Juve va enchaîner, la Juve par un 9e titre consécutif, c'est la grande question en Serie A. Je vous demanderai votre avis, messieurs. Alors,
est-ce que Sarri va garder le costume toute la saison? C'est ça la question.
Non, déjà, comment va Sarri aussi?
Ouais, aussi.
Une vraie question. Comment il va après ses pépins de santé? A tout de suite pour l'after, on est ensemble jusqu'à minuit.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
L'after est là. Bien sûr, l'after est là comme tous les soirs, du lundi au dimanche, jusqu'à minuit. La semaine, c'est Gilbert. avec son équipe. Oui. Le week-end, c'est Jonathan McCarty et Ludovic Obraniak. On est là, messieurs.
On est là, les
La saison ensemble, bien sûr.
On est là,
les soirées Ligue 1, le gros match du vendredi soir également.
Le pain quotidien, la Ligue 1.
Tu auras du PSG, du Marseille le vendredi soir, du Lyon, du Lille également.
On va se régaler.
Non, mais c'est vrai. Et le samedi.
On me dit dans l'oreillette qu'on fait beaucoup plus d'audience féminine, nous trois, que les autres.
D'audience quoi?
D'audience féminine, on nous a dit que c'était nous qui la faisons par rapport aux autres.
Les chiffres?
C'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette.
Bah, c'est publié sur Twitter, effectivement. Sur le compte de l'Afterfoot, bien sûr, 32-16 ouvert, l'application RMC Sport Direct Studio. Vos messages, vos appels également, et bien sûr nos comptes Twitter. Beaucoup de réactions sur l'OM hein, tout à l'heure, notre débat qui a fait exploser littéralement le standard. T'en veux?
Bah vas-y, balance.
Bon, quand l'incompétence règne, on voit ce qu'on ça donne. Oui, avec Jacques-Henri et Zoubi, vous êtes mal barré. Un supporter dit ça. On a également comment ne pas être vénère. On voit des trucs incroyables tous les jours à Marseille. On ne voit pas comment ça pourrait s'arranger. Ça rend fou. On a également c'est à cause de Luis Gustavo et de l'OM. Ça, Jonathan, il est trop vénère. Il a besoin d'évacuer. Bonne chance quand même pour la fin du mercato.
Tu sais,
t'es vénère.
Non mais il y a un truc, c'est que je veux pas me la raconter, mais je voulais quand même on peut dire que je vous avais prévenu dès le début du projet qu'il y avait de l'incompétence qui semblait se mettre en place
dès le début.
Ah bah le premier jour quand Rudy Garcia a été annoncé, j'ai dit c'est une très mauvaise idée dès le début.
Très bien. La conférence de presse de Jacques Henriero,
j'ai été un petit peu voilà, j'ai voulu laisser sa chance au produit, mais au bout de 2-3 mois, bon, un premier mercato d'hiver, on a compris hein.
Au final, tu te rends compte quand même que Rudy Garcia tu révises aussi un peu ton jugement.
Non.
Certes, ouais, il fait partie d'un rouage qui fait que c'est un ensemble de choses, il y a participé grandement.
Oh oui.
Mais force est de constater que les joueurs ont une part de responsabilité.
Il a grandement.
Et que la direction, et notamment le président,
non,
a une grosse part de responsabilité.
Rudy Garcia a grandement participé à dilapider les 200 millions d'euros. Et c'est quand même l'argent, le nerf de la guerre.
Allez, on a déjà fait Marseille. Hein, on va faire Marseille toute la saison, évidemment, bien sûr. Hein. Marseille qui sera sur le terrain de Nice, mercredi soir.
C'est toi qui as dit, je t'ai écouté hier, c'est toi qui as dit
qu'il y avait.
C'était lui qui n'avait pas acheté Radonjić à 15 millions. C'est toi ou c'est moi qui l'ai dit?
Et Sertic,
dégage, je vais. Hein, je ferme le micro. Je vous laisse, les gars. On va faire la saison ensemble, tous les deux. Moi, j'arrête dans votre
petit couple là. On t'a pas encore accepté, tu sais.
Comment ça? C'est moi qui t'accepte. C'est pas l'inverse.
Non, pardon, papa.
On est avec deux drôles de dames. Elles sont là. Julien Laurent. Salut, Julien.
Salut.
Ça va?
Salut, Julien.
Salut, Julien.
Super, super, merci.
Il est quelle heure à Londres là? 23h20. Ça fait une heure de moins.
22h20. Je viens de finir un Aston Villa Everton.
Qui a donné
victoire d'Aston Villa 2-0, leur première victoire en Première Ligue depuis février 2016, puisque lors de leur dernière saison en Première Ligue, ils n'avaient pas gagné un seul match entre février et
mai. C'est vrai ça.
Ouais.
Julien, explique-moi un truc. Pourquoi Everton recrute un joueur comme Moise Kean pour ne pas le faire jouer?
Alors, ils vont le faire jouer.
C'est le début de saison.
C'est le début de saison. Comme un petit peu à l'exemple d'un Nicolas Pépé, par exemple, avec Arsenal, tu vois, pour les nouveaux arrivés comme ça. Tu leur laisses un petit peu de temps, tu les fais entrer en jeu plutôt que de les faire débuter tout de suite.
Attention que le laisser un petit peu de temps te mette pas en difficulté dès le début du championnat.
Je pense qu'il y a une explication qui est simple, c'est que la Première Ligue, on dit que c'est peut-être un cliché, mais je pense que c'est vrai, c'est un championnat qui physiquement est plus difficile que les autres, et je pense que les joueurs.
C'est la Ligue 1, mais l'autre c'est un monstre. C'est la Ligue 1, mais c'est un autre championnat.
Oh, l'autre c'est un monstre.
Après, ça dépend des joueurs. Mais oui, ça dépend des joueurs. Regarde Guendouzi la saison dernière. Guendouzi, il arrive de Lorient en Ligue 2. Et il a joué tout de suite avec Emery, il a été très bon tout de suite aussi. Donc ça dépend vraiment des joueurs, de ce que t'as fait en pré-saison, de comment tu t'es adapté au groupe.
Il a 18 ans, 19 ans.
19 ans, ouais.
Simonet.
Non, il a encore le.
Bah, Julien, tu sais, quand tu rates le train en Première Ligue, dès le départ, c'est difficile de raccrocher les wagons.
Simonet Reverre est avec nous également. Salut Simonet. Ciao Simonet. Comment il va? Moise Kean, qui joue pas en Angleterre pour l'instant. T'en penses quoi, toi?
C'est quoi, de Moise Kean?
Ouais, il joue pas en Angleterre.
Il s'en fout, il est plus chez lui.
Bah non, je m'en fous pas, je suis un peu désolé. Je m'attendais de le voir être important quand même. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas de minutes, pas de possibilités. On verra, hein, c'est difficile de changer de championnat, changer de vie, peut-être pour lui aussi.
Changer de vie.
C'est simple.
Comme Simonet Rovera qui a changé de vie.
Tu vas venir nous voir quand même cette année.
Alors attends, je vais rappeler quand même, parce que Simonet Rovera, comme Adrien Rabiot, il a choisi Turin.
Mais est-ce que tu vas venir voir un peu cette année quand même?
Simonet Rovera s'est installé à Turin. Tu sais désormais c'est voisin ou pas de Gonzalo Higuain ou pas? Est-ce que tu as avancé dans ton enquête?
Non, pas encore.
C'est pour te dire
son dans la rue,
nouveau niveau de rémunération.
Bah oui,
parce que pour être dans la rue de Gonzalo Higuain, le mec a pris quand même
Ouais, triplex dans le cœur de Turin.
C'est l'inverse. Imaginez, Higuain n'est pas bien accepté à la Juve.
Simone, je m'inquiète.
Il a déménagé cet été, donc chacun probablement il a pris un petit appartement à côté de moi.
J'ai
un
studio. Tu vas nous faire pleurer, Simone.
Simone, juste, moi je m'inquiète que tu sois, que t'aies déménagé en Italie. On t'a laissé, t'étais pas en grande forme, en très fort surpoids, et donc voilà, je m'inquiète. Quoi, j'espère que t'abuseras pas des restos, poids, en fait, des pâtes et des pizzas, parce que ça me ferait plaisir quand même que tu reviennes nous voir et qu'on te voit en forme.
Tu vois pas qu'il est anorexique, donc il a. Que les gens prennent un peu de poids.
Cette obsession du poids, tu règles tes problèmes avec toi-même, laisse-nous tranquille avec notre gras. Voilà, nous on est bien dans notre gras.
Je vais promettre que la prochaine fois que vous verrez, non, ça va être très tôt pour les tirages à sort des Ligues des Champions. Donc là, j'aurais pas perdu beaucoup de poids, mais bon, même dans la saison, ça... il y aura quelque chose de mieux.
Sache que tu nous manques, Simone,
oui,
mais
on va le revoir.
Sache que j'ai vu aussi cette petite vidéo pour MPG et bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à te revoir dans ce maillot L alors que tu fais du XL. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir avec ton équipe de pépites en bois. Bravo. Là, tu m'as.
Allez, voilà,
ça m'a consolé.
Stop, c'est l'équipe des pépites, c'est les surprises de la saison. Vous verrez bientôt aussi tous les meilleurs joueurs.
Oui.
Il y a aussi Romelu Lukaku.
Est-ce que tu peux éviter de tricher cette année aussi?
Bah écoute, allez, sur le championnat italien, j'ai pas besoin de tricher.
Justement, on va en parler. Dans un instant, on parle d'un énorme Liverpool-Arsenal demain, 18h30 sur RMC Sport 1 avec toi, Julien. Mais d'abord, la Serie A, c'est reparti demain pour toi, Simone, en Italie. Serie A, enfin sexy, Simone. Hein. Peut-être pour ça que tu es retourné, tout le monde s'est adapté. Il y a les retours au pays, notamment enfin, le retour de Lukaku. Non. L'arrivée de Lukaku, Ribéry, Rabiot, De Ligt, le retour de Mario Balotelli également, ce serait une attraction cette saison en Serie A. Ça démarre demain par le champion, la Juve, qui se déplace à Parme, Simone. Tiens, d'abord, avant qu'on parle de la Juve et des nouvelles du coach de la Juve, Maurizio Sarri, victime d'une pneumonie cette semaine, comment il va?
Alors, il va mieux, c'est ce que dit la Juve, ce qu'a dit aujourd'hui Pavel Nedved, conférence de presse de Pavel Nedved. Donc, imaginez un vice-président d'un club, bien sûr, ancien joueur, qui se déplace pour faire la conférence de presse à la place de l'entraîneur. C'est quelque chose. Ça veut dire aussi que la Juve avait envie de communiquer sur la situation de Maurizio Sarri, qui va mieux, qui est en train de se soigner, qui, en théorie, on me dit qu'il travaille beaucoup, même s'il devrait se reposer. On me dit aussi, là, c'est d'autres sources pas officielles, qu'il est beaucoup fatigué, beaucoup stressé par ses débuts de la saison. Ça, il a 60 ans, il y a eu un long voyage. Lui, peut-être, il fume un peu trop des cigarettes. Donc là, il faut qu'il se tranquillise. Il pense à se soigner. Il sera sur les bancs après la trêve. Donc, il rate Parme, les déplacements à Parme, et rate surtout Juve-Napoli du 31 août. Donc, c'est important la santé, il va se soigner et on espère de le revoir après la trêve en pleine forme pour nous faire découvrir son Sarri Ball que vous les Anglais vous avez rien compris. Bon, c'est mal. Bon. Julien, c'est ta faute, tout laisser.
Julien a réagi.
Non, mais je laisse parler Simone pour l'instant.
Ok.
Il était en train d'écouter l'après-match d'Aston Villa.
Mais c'est exactement le mec en fait, il n'écoutait pas. Quand j'ai lancé les sueurs froides, il a fait oh putain merde.
Je ne sais pas du tout ce que tu as dit.
Mais alors, pas voilà, du tout. Moi, c'est honnête. Simone, je ne sais pas qui sera coach. Qui va remplacer Sarri sur le banc demain, du coup?
Martuchel, imaginez, c'était. Il jouait à Empoli, ancien joueur d'Empoli. Il était l'assistante de Spalletti la saison dernière à l'Inter. Il connaît Maurizio Sarri depuis longtemps. Et donc, pour les deux premiers matchs, il a déjà entraîné en Serie A, Martuchel. Ouais, c'est un ancien coach de Serie A qui a entraîné. Justement à Empoli où il était joueur à une époque, et donc c'est lui qui sur les deux premiers matchs sera sur les bancs. C'est pas la première fois de l'histoire que la Juve démarre la saison sans l'entraîneur titulaire. Souvenez-vous, 2012-2013, Conte suspendu, et c'était son assistante Alessio qui avait pris la commande des choses. Au début c'était Carrère, après Alessio, mais donc c'est pas la première pour la Juve de commencer sans coach.
Simone, il s'opère une mini révolution quand même au sein de la Juventus de Turin, notamment avec ce changement d'entraîneur. On le voit aussi avec l'effectif qui est remanié, avec des joueurs qui sont plus ou moins amenés à partir ou qui seront plus ou moins exclus de cette fameuse liste de la Ligue des Champions. Comment c'est pris du côté de Turin, des tifosi? J'ai l'impression que on avait beaucoup de doutes sur l'arrivée de Sarri. Et finalement, j'ai l'impression que les choses se passent plutôt bien avec les supporters.
Alors, oui et non. C'est-à-dire, la révolution à la Juve, c'est beaucoup plus grande. C'est les premières mercato d'été sans celui qui a été l'homme fort de la Juve sur ces dernières saisons, Giuseppe Marotta, qui est parti directeur général à l'Inter. Aujourd'hui, il faut parler un peu aussi de la politique au-delà du ballon, parce que la Juve se retrouve, à mon avis, dans une situation qu'elle n'a jamais eue si compliquée, parce qu'elle a très bien acheté, De Ligt, vous l'avez dit, Rabiot, Ramsey.
Gratuit donc, Rabiot.
Gratuit Rabiot. Après, des joueurs intéressants.
Ramsey gratuit aussi.
Ramsey gratuit aussi. Demiral, qui était une des meilleures défenseurs en Turc, qui jouait à Sassuolo de la dernière Serie A. Donc, il achète très bien, revient Buffon, ok, important pour le vestiaire, mais il n'arrive pas à vendre. Donc, on se retrouve dans une situation un peu compliquée, avec une vestiaire, avec des joueurs de fortes caractères, des fortes personnalités. Je pense à Mario Mandzukic, titulaire indiscutable avec Massimiliano Allegri. Je pense à Blaise Matuidi, bien sûr, qui aujourd'hui sont considérés des joueurs en surplus. Il y a trois joueurs en rapport à ce qui doit entrer dans la liste de la Ligue des Champions. On ne sait pas qui entre. Dybala, Mandzukic, Higuain, Matuidi, Emre Can. On parle aussi de Betancourt, qui est considéré quand même une jeune promesse pour le milieu de terrain. C'est-à-dire,
il me semblait être dans le style Sarri en plus, Betancourt.
Mais bien sûr, Malibé se retrouve avec trois joueurs qui vont sortir de la liste de Ligue des Champions. Rougani aussi est sur le départ et devrait aller à la Roma.
C'est bizarre ça. Attends, Simonet, je te coupe là-dessus. Mais c'est pas bizarre parce que Sarri, j'ai l'impression qu'il en a fantasmé de Rougani à Naples, il en a fantasmé à Chelsea. Là, il l'a enfin. Pourquoi il part?
Ben, quand même, tu as Bonucci et Chiellini qui sont intouchables, tu as De Ligt qui...
Eh oui, tu as De Ligt, c'est vrai.
D'ailleurs, Simonet, le mieux, c'est qu'on voit la composition, parce qu'elle est tombée, la composition de la Juve et qui jouera demain sur le terrain de Parme. Déjà, première information, Adrien Rabiot sera titulaire.
Oui, il y a lui, c'est sûrement titulaire. L'autre nouvel recrue qui pourrait être titulaire, c'est Danilo à droite. Il y a aussi des départs de Cancelo pour Danilo qui interroge beaucoup les supporters, même si Cancelo la saison dernière n'était pas toujours parfait en phase défensive.
Simonet, la grosse surprise, c'est Khedira.
Khedira, c'était une de ces joueurs qui était sur la liste des départs.
C'est ça.
La Juve, et qui est titulaire demain à Parme.
Il devait même être libéré s'il voulait résilier son contrat à l'amiable. Lui, il est resté parce qu'il voulait être payé en entière sur sa dernière saison. Et Maurizio Sarri, par contre, il a dit non, un joueur complet, on l'a pas. On a besoin de lui. Plutôt, faites partir Matuidi. Et là, ça commence un peu les galères pour Matuidi au-delà de l'arrivée de Rabiot. Bien sûr, j'ai dit, Sarri a dit ça. Après, c'est des discours en intérieur entre lui et les dirigeants. C'est un peu les retours qu'on a en off de comment se sont passés. Maurizio Sarri n'est pas allé voir Fabio Paratici et disant, bon, on fait partir Matuidi. Mais il a dit, je veux que Dira, j'ai besoin de lui. Il y a d'autres profils qui sont moins importants pour nous. Et dans ces profils-là, comme je disais, il y a Blaise Matuidi. Et c'est une surprise de voir Khedira titulaire. Bien sûr, Emre Can ne propose pas un jeu. Il n'arrive pas à remplir un peu l'espace surface, à porter les ballons plus haut qu'on fait Khedira, à remplir la surface aussi. Emre Can, c'est beaucoup plus défensif. Vous vous souvenez, la saison dernière, il a même joué comme défenseur central.
Exactement.
Donc, il y a plein de surprises. On ne sait pas encore quelle est la patte de Maurizio Sarri, parce que dans les jeux, on ne voit pas beaucoup. Les dernières tests amicales, c'était 1-0 face à la Triestina, une équipe de 3e division avec un jeu...
Mais Simonet, tu dis, on ne sait pas trop, mais la Juve, avant de démarrer la saison, est l'immense favori de Serie A. On ne voit pas comment la Juve pourrait abandonner un titre, un 9e consécutif d'ailleurs.
La Juve a l'effectif supérieur. S'il y avait une note à donner à l'effectif de la Juve, c'est 10. Et la première équipe qui
sur
se
10,
rapproche
hein.
un peu, c'est sur 10. Bien sûr, c'est Napoli ou l'Inter avec cet Edemi. Peut-être, on va voir s'il y a des dernières arrivées.
Tu mets un quart de demi, quoi.
Bien sûr, mais
ils ont
on
tout,
pourrait
qualité,
voir...
profondeur de banc, ils ont... C'est...
Et Higuain, il va rester ou pas à la Juve, d'ailleurs?
Alors, aujourd'hui, il y a la plus de chances pour moi qu'il reste Higuain plutôt que Mandzukic, avec qui il y a vraiment une... On voit une situation compliquée. Les derniers matchs où il est rentré sur le terrain, je rappelle, c'est amical face à la Triestina. Mandzukic rentre sur le terrain, on dirait qu'il n'a pas envie. On lui donne les brassards de capitaine à la sortie de Dybala, parce que lui, c'est le joueur qui est plus capé, donc qui doit mettre les brassards. Lui, il ne le veut pas. Il les donne à Khedira. Khedira lui dit non, c'est à toi. Lui, il ne les met pas. Après, il passe quelques minutes avant de les mettre sur son bras gauche. On dirait vraiment Mandzukic qui ne veut pas faire partie d'un projet où il n'est pas protagoniste. Moi, j'adore Mandzukic, donc s'il y avait quelques clubs intéressés, je pense qu'il faudrait aller sur lui. Après, il a un salaire important. Mais c'est une situation globalement, au-delà de l'effectif de la Juve qui est extraordinaire et la possibilité de le voir jouer avec les jeux de Sarri qui est encore plus séduisant, il y a une j'ai l'impression que dans les vestiaires, dans les clubs, cette changement, cette nouvelle situation risque de créer plus de soucis qu'on n'aurait jamais imaginé.
C'est surprenant de voir aussi Dybala titulaire du coup dans la même
quand on voit l'effectif là. Non mais
Ludo. C'est soit Dybala, soit Higuain. Oui. Les deux, par hasard, ou pas un hasard, mais ils ont fait une très bonne, pour moi, très bonne, une belle pré-saison. Quand même, ils ont montré d'avoir beaucoup d'envie de participer et de rester à la Juve.
Donc, il reste, ça veut dire Dybala.
Aujourd'hui, si tu dois faire jouer cette équipe, tu as besoin d'un avant-centre. Cristiano joue à gauche. À droite, tu peux faire jouer Douglas Costa, peut-être Bernardeschi. On va voir quand même
Simone,
entre Dybala. Simone,
Ludo. Et, Cristiano joue à gauche.
On finit sur la Juve.
Ok. Combien de temps ça va durer? C'est-à-dire que, alors je suppose que Sarri a réussi à le persuader de pouvoir jouer à ce poste-là. Honnêtement, tu crois que ça peut durer dans le temps, Cristiano Ronaldo à gauche?
Non, mais après, Cristiano à gauche, ça veut dire qu'il commence là-bas.
Ouais, voilà, c'est un jeu. Il est libre.
Il est libre de faire ce qu'il veut. Après, si Cristiano ne reste pas dans la surface, il faut quelqu'un qui remplit la surface.
Exactement.
Donc, c'est pas Dybala, ces profils-là. C'est peut-être un peu plus Higuain. La Juve attend depuis des mois de chercher, de faire une offre pour Mauro Icardi. Mauro Icardi, il a refusé toutes les propositions qu'il a eues cet été. La Roma, Napoli, Monaco, il attend que la Juve, depuis des mois, sinon il bouge pas, il dit qu'il veut rester à l'Inter. Si la Juve n'arrive pas à faire l'offre à l'Inter et l'Inter l'accepter. Donc c'est vraiment un jeu, un puzzle de mouvements de mercato qui n'arrive pas à se trouver une solution. C'est pour ça que j'ai dit, la Juve a tout pour gagner. Mais il y a une petite chose qui ne marche pas, c'est l'ordre parfait qu'il y avait dans toutes les affaires de la Juve jusqu'à la saison dernière, qu'aujourd'hui je ne vois pas. La Juve était parfaite avant tout dehors le terrain et après sur le terrain.
Est-ce que
je ne le vois pas.
Est-ce que la Juve est vraiment rentrée dans les tractations pour le cas Neymar? On entend beaucoup de choses hein, ces derniers temps avec Dybala, notamment le Paris Saint-Germain et Neymar qui intéresserait finalement. Est-ce que c'est des rumeurs fondées ou pas?
Alors, de façon officielle ou de façon quand même de sources Juve, non. Après, que dans les discussions entre directeurs sportifs ou intermédiaires, les noms soient tombés sur la table des Bianconeri. Et moi, je pense que ça peut être possible. Après, faire un pas concret, ça voudrait dire renoncer à beaucoup de choses. C'est vrai que cette année, il y a eu les décrets Crescita, donc cette loi qui aide beaucoup les clubs italiens sur le mercato.
Parce grâce à la fiscalité, la nouvelle fiscalité,
voilà,
c'est ça.
Une nouvelle fiscalité avec un 50% d'impôt
en moins.
Pour arriver à Neymar, il faudrait vraiment que la Juve trouve un accord avec le PSG, que, comme j'ai dit plusieurs fois, ça doit être un peu du fantasy, avec plusieurs joueurs dans les deals, dont Dybala, mais là, je vais l'avoir compliqué aujourd'hui.
Mais attends, ça veut dire que Franck Ribéry va payer 50% d'impôt en moins également. Peut-être pour ça qu'il a choisi la Serie A.
C'est pour ça que la Fiorentina peut lui offrir 4 millions d'euros.
Exactement.
C'est pour ça que Simone Rovera habite à côté de Gonzalo Higuain.
Toi aussi, mais toi aussi, t'as 50% de réduction d'impôt ou pas? Comment ça se passe?
Bah écoute, c'est une longue histoire, mais non. Pour moi, non.
Tiens, c'est une info de la journée.
Rempatrié.
Simone, c'est une info de la journée. Franck Ribéry, donc le nouveau joueur de la Viola, de la Fiorentina, est déjà dans le groupe de la Fio, qui affrontera Naples demain à 21h. Énorme match déjà.
C'est incroyable les destins de voir Ribéry qui va jouer contre Carlo Ancelotti. Après, bon, j'ai dit que Ribéry va jouer, mais que Vincenzo Montella, ce matin, il a fait comprendre qu'il pourrait faire jouer quelques minutes à Ribéry. Je pense que c'est aussi un signal que tu donnes à ton équipe, la Fiorentina, avec beaucoup de jeunes. Et l'avant-centre, Vlahovic, qui devrait être titulaire, c'est un joueur de 99, si je ne me trompe pas, ou 2000. C'est très, très jeune. Il y a Federico Chiesa, qui est...
Ils ont réussi à le garder, hein, quand même.
Qui sont réussi à garder.
C'est beau, hein.
L'effet que Ribéry soit là, je pense que c'est vraiment aussi pour donner un signal au groupe, c'est-à-dire on est en train de bâtir quelque chose. Les nouveaux propriétaires, Rocco Commisso, cette italo-américaine originaire de Reggio Calabria qui a fait fortune aux États-Unis, a promis de faire encore des gros investissements. Il a fait aujourd'hui en comparaison en disant seulement Cristiano a gagné plus que Franck Ribéry en Serie A, en disant donc c'est un peu notre Cristiano. Mais c'est vrai pour la Fiorentina, ça, même si il faut faire vraiment les différences qu'il y a aujourd'hui entre Cristiano et Franck Ribéry. Mais je pense qu'il n'y a peut-être pas plus belle histoire de Mercato, ouais, de voir un joueur si magnifique comme Franck Ribéry arriver à Florence. Les bras droits du président Rocco Commisso, qui s'appelle Joe Barone, il a dit « On a envie de faire devenir cette équipe, la Fiorentina, au niveau de la ville ». C'est une belle promesse.
Oui, Florence.
C'est ma destination belle principale. D'Italie.
C'est romantique, hein, Ribéry à la Fiorentina. Super choix de carrière, c'est franchement.
C'est aussi beau Ludo, que dire aussi à Boca.
Toi qui, exactement. Ouais. Exactement. C'est le même registre. Ludo, tu le connais, hein, t'as joué avec lui à Metz. Super choix pour lui. Tu le vois réussir. T'as pas encore parlé de l'avenue de Ribéry à la Fiorentina.
Je suis très heureux pour lui dans le sens où il a l'air épanoui de cette décision. Très content de le voir toujours dans le paysage européen. On pensait tous qu'il allait s'exiler dans des destinations un peu plus exotiques. C'est pas le cas. C'est un joueur toujours ambitieux, passionné, qui a envie de toujours jouer au plus haut niveau. Et c'est pour ça, c'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut sur Franck. Il est vieux, enfin, ou du moins, il arrive à un âge où on peut supposer qu'il soit moins performant. On peut admettre aussi qu'il a été souvent blessé. Mais j'ai rarement vu un joueur de cette qualité en 1 contre 1. Un mec qui avait une double accélération où il était impossible de le rattraper. On peut dire ce qu'on veut. C'est un joueur sur, alors il fera peut-être pas les 40, les 50 matchs avec la Fiorentina, mais sur 25 matchs, il va enflammer le stade, il va enflammer les tifosis. Il va faire le bonheur de ce club-là comme il aurait pu faire le bonheur de plein d'autres.
Et puis, franchement, voilà, la vie, la qualité de vie qu'il va avoir, là, attends, c'est magnifique, c'est une des plus belles vues au monde.
Il passe du Munich, une très belle vie.
Il a déjà, à Florence, c'est super. Il est arrivé.
Tu sais où il va habiter ou pas?
Non, pas encore. Mais il est arrivé, il parlait déjà un peu italienne. Il a séduit la ville, les joueurs, les
journalistes. Attends, Simone, il parle vraiment bien italien ou pas?
Il s'est fait comprendre,
c'est bien déjà.
Non, mais il parle. J'étais jure, c'était une surprise de voir un joueur qui n'a jamais habité en Italie, n'a jamais connu l'Italie.
Il a appris avec le préparateur physique du Bayern.
Oui, il a pris avec son préparateur physique, il a joué avec Luca Toni, peut-être ça a aidé à un certain moment. Ouais. Ah, il y a cette histoire que je veux vous raconter.
Très court, parce qu'il y a Julien Laurence qui attend également.
Bah, le directeur sportif de la Fiorentina hier a raconté ça en disant comment est née l'idée de Ribéry. Une des premières jours après qu'il avait pris ses travaux, Daniel Pradel, comme directeur sportif de la Fiorentina, il reçoit l'appel de Luca Toni. Et Luca Toni lui dit pourquoi tu ne fais pas une folie? Pourquoi tu ne prends pas Ribéry? Qui, je l'ai appelé hier, il m'a dit qu'il a envie de tout casser encore.
Oui,
donc génial. C'est Luca Toni qui a suggéré l'arrivée de Ribéry à la Fiorentina.
Magnifique.
Au début, il ne croyait pas, il disait pourquoi pas, c'est un rêve. Et au final, Ribéry, c'est un nouveau joueur de la Fiorentina, maillot numéro 7 sur les épaules.
Et on va se régaler. Demain, Simone. La Fiorentina. Merci Simone pour ton info, ton histoire, homme d'histoire italienne. Merci Simone, excellente soirée.
Ciao.
Bon début de carrière pour toi. Ciao. En Italie, bien sûr. Julien est avec nous. Julien, t'es là?
Toujours là. Enfin, on va parler d'un vrai championnat.
Est-ce que tu peux raconter l'anecdote de Simone à l'instant qu'il vient de nous conter?
Ah, j'ai pas écouté non plus.
Voilà. C'est pas beau.
C'était sur Ribéry, la Fiorentina, Luca Toni. C'est Luca Toni qui a fait. Ça y est. Luca Toni. C'est Luca Toni qui a joué un grand rôle dans l'arrivée de Franck Ribéry.
Voilà, il a les mots-clés, super.
Mais Julien, il nous intéresse plus. Ça fait 2 mois et 1 mois qu'il est fermé son mercato.
T'as raison.
Toi, tu vas avoir des problèmes.
Est-ce qu'en Angleterre, il y a une ville aussi jolie que Florence? Non, même pas. Il n'y a rien qui arrive à la suite.
Brighton, magnifique Brighton. Casino, sa plage.
En revanche, Ludo, nous, on continue à vendre. Hein. On peut encore vendre. Nous, c'est encore ouvert pour les ventes.
Énorme. Une des plus grosses affiches de ce début de saison pour toi, Julien, demain, 18h30, RMC Sport 1, Liverpool-Arsenal. Premier gros test pour les Gunners, hein, qui reste sur 2 victoires pour l'instant. Avec 2 matchs, hein, on ne va pas s'emballer non plus. Est-ce que Nicolas Pépé va enfin débuter?
Il serait temps quand même.
Ouais, je pense qu'il devrait débuter. Emery a expliqué hier qu'il avait fait jouer 15 minutes lors du premier match contre Newcastle, 45 minutes contre Burnley à domicile le deuxième match, et que là il était prêt pour débuter.
Bon, comment alors dans quel système?
Je pense qu'il va les faire jouer en 4-3-3 et qu'il va faire jouer Lacazette, Pépé, Aubameyang, les trois devant jouer en contre. Mais contrairement à la saison dernière où vous avez pris une fessée puisque vous avez perdu 5-1. Et il avait mis la casette sur le banc. Il avait fait jouer Aubameyang seul dans l'axe, qui avait quasiment pas touché le ballon. Je pense qu'Emery s'est rendu compte que pour aller à Liverpool, et si tu veux jouer en contre, c'est très bien, hein, c'est sûrement la façon dont il veut jouer, parce que t'auras du mal à les battre, en voulant jouer avec eux à leur propre jeu. En revanche, tu peux les prendre en contre. Ils sont prenables en contre. Mais il faut aussi un joueur comme la casette qui est capable de garder un petit peu le ballon pour faire remonter ton bloc. Parce que si tu mises que sur la vitesse d'Aubameyang, même dans, oui, le dos de Van Dijk ou dans le dos de Gomez, ce sera quand même compliqué.
Et Julien, quand même, un joueur comme Lacazette avec les saisons qu'il a faites, comment c'est perçu ça, cette non titularisation? C'est vraiment un choix? Il y a un petit problème physique de blessure, ou c'est un choix pur de l'entraîneur? Et comment c'est perçu?
Tu veux dire c'est à Liverpool la saison dernière ou...
Non, là, Lacazette, il a pas débuté le premier match, non?
Le premier match, non, parce qu'il avait pris un coup contre Lyon, voilà, en match amical.
Ok.
Voilà, Alexa n'était pas complètement à 100%. Après, il a débuté contre Burnley à domicile le week-end dernier. Il a marqué d'ailleurs son premier but en championnat. Mais le problème que j'ai, et j'en ai déjà parlé souvent dans l'émission, c'est que t'avais ce duo Lacazette-Aubameyang qui jouait tous les deux dans l'axe. Et ça t'avait rapporté 50 buts dans la saison, la saison dernière. Le problème, c'est que Pépé, il va te faire changer, tu vas casser ce duo-là, cette association là,
justement, complicité à deux, quoi,
pour faire jouer Aubameyang sur le côté gauche, voilà, qui est tout, pas son, même s'il y joue sans rechigner, mais c'est pas non plus sa meilleure position.
Je pense pas, Julien, parce que finalement dans ce championnat, tu vois que ça laisse quand même énormément d'espace dans le dos des défenseurs. Or Lacazette, il a cette capacité à pouvoir venir au ballon, comme les deux autres sont, je pense, plus rapides qu'Alexandre Lacazette. Justement, lui, il va libérer lui qui aime venir au ballon.
Vrai, ouais.
Il va libérer cet espace pour les appels en diagonale des deux. Je peux te dire que ça,
juste
si les trois sont alignés, ouais, que ça fonctionne bien, c'est une tuerie.
Julien, pour qu'on essaie de mieux comprendre, tu peux nous donner la composition du milieu de terrain aussi?
Alors, je pense que demain, ce sera donc Dani Ceballos qui a fêté sa première titularisation le week-end dernier contre Burnley, qui a été vraiment très bon. Et c'est marrant parce que c'est un joueur qu'on avait vu par exemple à l'Euro
des
régalé, meilleur joueur de l'Euro, ouais.
Il a marché sur l'équipe de
France. Même s'il a 23 ans et qu'il jouait dans l'Euro des moins de 21, il a quand même été au-dessus du lot largement. Et bizarrement, je l'ai rencontré en vacances avant le début de la saison, et il avait avec lui un livre qui s'appelait le football en anglais. Et c'est pour vous dire à quel point, parce que
sincèrement, c'est quoi ce livre, Julien, le football en anglais?
C'est le vocabulaire du foot, mais en anglais.
Ah, d'accord.
Tout de suite, il a voulu apprendre.
Envie de s'adapter très rapidement.
Exactement. Et Ludo, tu confirmeras, il y a beaucoup de joueurs qui vont dans un autre pays, à l'étranger, et qui veulent pas apprendre la langue, ou qui, je peux vous parler de beaucoup de grands joueurs ici en Angleterre. Ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils sont ici, ils peuvent toujours pas parler anglais. Et lui, j'ai apprécié cette volonté d'arriver et toujours tout de suite pour s'intégrer, d'apprendre la langue, de vouloir converser avec tout le monde, le vocabulaire, etc.
Avec qui alors, du coup, Julien, avec qui?
Ceballos. Avec Guendouzi, je pense.
Guendouzi, ouais.
Matteo, qui a été vraiment très bon depuis le début de la saison, ouais. Et je pense Xhaka pour apporter un petit peu de
4-3-3 alors.
En 4-3-3. Ouais. Après, la casette Aubameyang, Pépé devant, et puis les 4 de derrière, si pour David Luiz, c'est peut-être pas forcément le meilleur système à la défense à 4 derrière. Tu feras jouer Maitland-Niles, Montréal, et puis après Socrates et...
Et là, il y a attraction, Ludo, hein. Voir Aubameyang, Lionel Pépé, on a
peut-être potentiellement
c'est le meilleur trio.
C'est l'attraction surtout avec Dani Ceballos.
Oui, pour leur mettre les ballons en profondeur.
Moi, ça peut être fou. Ils vont pas jouer aux îles s'il a décidé de se remettre.
Je reste juste quand même un peu circonspect.
Fred Hermel nous attend, rapide.
Je reste juste quand même un petit peu circonspect sur la complémentarité entre les trois, et je pense qu'il y a un vrai casse-tête que Emery va devoir résoudre.
Effectivement. Merci, Julien.
Ciao, Julien.
Juste une dernière chose pour vendre encore très rapidement. Sur les 7 derniers matchs entre Liverpool et Arsenal, on a vu 35 buts, 5 buts par match. Donc tu sais qu'il va y avoir des buts quoi qu'il arrive. Et comme je vous ai dit, 5-1 la saison dernière, 4-0 la saison d'avant pour Liverpool, et 3-1 la saison d'avant encore. Donc Arsenal prend beaucoup de buts aussi quand ils vont à Anfield.
18h30 RMC Sport, Liverpool, Arsenal. Tu seras avec nous demain, Julien, pour débriefer ce match.
Ouais.
Évidemment. Bonne soirée, Julien.
Salut, Julien.
Excellent. Vous aussi, les gars. Ciao.
Fred Hermel est là, il nous attend. Il est chez lui, posé. Il a vu Zizou, mais non seulement il l'a vu, mais il lui a parlé.
Oh là là.
On saura dans un instant s'il a primeur de la première question
en
conférence de presse. Il y a des traditions au Real Madrid. Est-ce qu'elles sont respectées encore? Fred Hermel nous attend pour évoquer le cas Keylor Navas, Real Madrid, PSG. Où en est-on dans ce dossier épineux? A tout de suite, c'est l'After. On est ensemble jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy et Ludovic Obraniak. A tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, c'est l'After-foot, Nicolas Jamain.
Le dernier quart d'heure de l'afterfoot, bien sûr, comme tous les soirs, du lundi au dimanche, l'after est là jusqu'à minuit à la télé sur RMC Sport News, à la radio sur RMC, l'application RMC Sport, Direct Studio, et bien sûr le hashtag RMC Live.
Messieurs, il est là, c'est sa première dans notre équipe de l'after du week-end.
Ouais.
Fred Hermel, jingle Fred Hermel.
Salut Zizou. Merci Zizou.
Salut Fred.
Salut Nico.
Salut Fred. Salut Nico. Écoute, moi j'ai eu la chance de passer
bienvenue,
quelques temps
Nico.
Avec toi. Mais je suis heureux de te rejoindre, tu sais. Bon, on se connaît depuis quelques années déjà, mais là, de venir dans le temple de l'after à tes côtés, c'est un bonheur. J'ai eu la chance, c'est vrai, ce que j'ai dit à Jonathan et Ludo, de venir souvent travailler avec toi à Madrid, de mettre au fond de la salle la conférence de presse, c'est à Bernabéu, et toujours de voir Fred, bah oui, qui a sa place au premier rang. Et qui, sans le demander, tel un roi, accueille le micro en premier pour la première question. Est-ce que c'est encore le cas, Fred?
Bon, alors...
Oh, ça a changé, j'ai l'impression.
Non, non, mais c'est pas ça. Non, mais en fait, l'histoire,
parce que t'es français,
c'est que
en fait, c'est ça, l'histoire.
Quand Zidane a été nommé entraîneur du Real Madrid,
ouais, j'étais avec toi.
La
ouais.
Première question m'avait été réservée, ce qui était un petit événement parce que c'était en français en plus, ouais. Quoi, parce que on va pas parler en espagnol. Et ce que nous avons, enfin ce que j'ai négocié et dont profitent mes grands amis parce qu'on est quatre correspondants ici au sein de ce qu'on appelle l'amicale laïque des correspondants ouais. Poètes et sportifs français de Madrid. Nous avons voilà, comment
l'amicale
ça s'appelle
laïque.
Nous avons le droit à deux questions en français et bien entendu la première est pour moi, ce qui veut dire l'avant-dernière question de la conférence de presse. C'est-à-dire qu'il y a les questions en espagnol et il y a toujours deux questions avec interprètes etc pour les espagnols réservées aux médias français parce que on va se dire la vérité, Zizou en dit toujours beaucoup plus en français qu'en espagnol.
Oui. Ah oui, clairement.
Oui, bah oui, parce que déjà il parle très bien l'espagnol, mais quand il faut être dans la nuance, on est toujours meilleur dans sa langue maternelle.
C'est vrai.
Voilà, donc...
C'est étonnant, j'aurais dit le contraire, moi, Fred.
J'ai l'impression
qu'il est plus à l'aise
ouais,
en
nous,
espagnol.
Nous, on a le sentiment qu'il est plus fluide en espagnol ouais, qu'en français.
Non, non, mais parce qu'en espagnol... alors, il dit des choses, mais... il va moins loin de peur d'être mal interprété.
D'accord.
Alors qu'en français, il peut vraiment aller plus loin parce que là, c'est clair, c'est sa langue, il contrôle tout, tous les mots. Puis aussi, il y a une question de confiance ouais. aussi. Je pense que quand il est dans sa langue maternelle, il est plus en confiance.
Plus en maîtrise.
On se connaît depuis 18 ans.
Et ouais, puis il connaît la presse française sur place, incarnée notamment par Fred Hermel. Fred, une info importante délivrée par Zidane aujourd'hui en conférence de presse.
Ouais, parce que moi je lui ai posé une question, bien entendu, sur Keylor Navas, parce qu'avec tout ce qui, on sait très bien que le PSG a mis Keylor Navas dans sa petite liste. J'aime pas employer le mot anglais, sa petite liste pour le gardien titulaire de la saison qui vient de démarrer, et que le gardien du Costa Rica est numéro 2 au Real. Alors moi je vais vous dire sincèrement, je savais déjà que Zizou voulait garder Courtois et Navas, parce qu'il estime que quand on veut tout gagner, il faut avoir deux gardiens de très haut niveau.
Il est deux ou un bis? C'est pas pareil.
Ouais, il est deux. On va dire okay. les choses qui sont. Il est deux parce que Navas va jouer.
Juste un petit truc. Oui. Quand il est revenu, Zidane, il a plutôt installé Navas d'entrée. C'est vraiment
aussi,
son choix, Courtois ou?
C'est une question intéressante. On va ouais. dire que Zidane, en tant qu'entraîneur, doit être aussi un petit peu politique.
Mm-hmm, c'est ça. Ouais.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où un club achète un excellent gardien hein, comme Courtois,
à prix d'or,
la saison dernière, à 35 millions d'euros, il faut le faire jouer. Et puis il est très bon.
Le match de Thibaut Courtois.
Et le match de Courtois la semaine dernière à Vigo, c'est deux arrêts extraordinaires. Donc voilà. Mais Navas va avoir un rôle important. Donc moi, je vais poser la question en disant, Zizou, on connaît ton rapport aux joueurs, ta fidélité avec des joueurs. T'as quand même gagné trois Ligues des Champions avec Keylor Navas. Est-ce que tu imagines le voir partir, notamment au PSG? On écoute la réponse de Zizou.
C'est un joueur important, il a démontré tout au long de sa carrière. Et c'est un joueur qui va compter de toute façon dans mon équipe. C'est ça le message. Je sais que de toute façon, un coup c'est lui, un coup c'est... Jusqu'au deux en fait, voilà. C'est un jour ce sera un joueur, un autre joueur, un autre jour. Moi ce que je veux, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie de continuer avec Navas l'aventure parce que je sais qu'il va porter sa pierre à l'édifice pour que justement remporter encore des choses cette année.
Alors, Fred, la question, il veut quoi Navas lui?
Navas...
Il veut jouer.
Il veut jouer, donc il jouera pas au Real, a priori, alors, sauf si Courtois se déchire sur 10 matchs.
Voilà. Donc, ou que Courtois se blesse, ça arrive aussi. Oui. Hein, mais Navas, maintenant, veut partir. Alors,
qui c'est le 3,
il y a quelques grincements de dents, je termine, au Real. C'est-à-dire que Navas n'a pas accepté d'offres qui sont arrivées cet été parce que le salaire était moins important. Et à la dernière minute, il dit bah, finalement, je veux partir. Alors que le Real a prêté Lounine, a prêté Lucas Hedren, qui était le numéro 3.
Ok.
Quel dommage.
Okay. Et là, du coup, c'est
Areola fait un très bon numéro 2 au Real.
C'est vrai, t'as raison, ça.
Oui,
ça serait un excellent numéro 2 au Real.
Je pense qu'il accepterait, lui, d'être numéro 2 au Real.
Je te disais, qui est le numéro 3, du coup, du Real Madrid, là?
Ah ben, numéro 3, c'est le gardien du Castilla.
D'accord, ça, donc ça me semble assez compliqué.
Ah ben non, mais là, de toute façon, si Navas s'en va, on parle de Pepe Reina, si Navas s'en va, il faut absolument acheter un gardien d'expérience qui accepterait un an en prêt ou quelque chose comme
Ludo, Ludo, mais... Vas-y, Fred.
Oui.
Vas-y, finis.
Non, mais je veux dire, c'est le problème, c'est que c'est un peu tard, quoi. Donc, ils sont un peu énervés au Real.
Oui.
En disant, mais Navas, t'as pas accepté d'offre au mois de juillet. Là, on est quand même à 10 jours de la fin du marché. Voilà.
Qu'est-ce qu'il vaut Navas aujourd'hui, Fred? C'est ça qu'on veut savoir. Enfin, les auditeurs du PSG. Est-ce que ce serait forcément une énorme plus-value pour le PSG? Est-ce que, je pose la question frontalement, ce serait mieux qu'Areola au PSG?
Attends, je pose la question.
Avant que Fred réponde.
C'est pas évident.
Moi, je vais le ressortir, mais Areola, il est pas bon. Tout simplement. Donc, forcément, ça serait mieux que.
Fred, ton avis?
Bah, c'est injuste que ce que tu dis, Jonathan, parce que c'est pas parce qu'Areola est pas bon, c'est que Navas c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Le mec a gagné 3 Ligues des Champions de suite.
Oui, mais c'est injuste. Ça dit juste qu'Areola il est pas bon, il a pas le niveau du PSG.
Oui, non, mais
forcément,
c'est
un gardien du Real. Oui, non, forcément, non. Ça serait une plus-value.
Mais Fred, tu dis que c'est un des meilleurs gardiens du monde, on l'a toujours mis derrière des Courtois, des Alisson.
Oui, il est au niveau.
Il n'a jamais été top 3 gardien monde.
Il souffre d'un élite sale gueule, j'ai l'impression, parce qu'il est quand même extraordinaire.
Il a pas le physique, il a pas le physique.
Quand tu gagnes 3 Ligues des Champions, tu devrais être considéré comme meilleur gardien monde.
C'est une super équipe aussi. Moi, je me souviens de la fameuse finale contre la Juve.
Oui, il a été décisif.
On parlait bouffonne.
Il a bouffé.
Celui qui fait l'arrêt décisif à 0-0 sur une frappe de Pjanic et Navas avec une main extraordinaire, parce que tu es mené à 1-0 par la Juve, c'est plus du tout la même rencontre, en finale.
Bien sûr.
Donc, ça, c'est un joueur. Le PSG aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un gardien qui fait gagner des points au moment décisif, qui fait gagner des matchs.
Sûr en Ligue des Champions.
Mais honnêtement, Fred,
il a vacillé, quoi.
Bien sûr.
Fred, il n'y a pas un super deal à faire, là. Areola, tout le monde le connaît en Espagne, il a été performant à Villarreal. Paris cherche un, vous cherchez un 2.
Mais là, tu t'es pas dans la tête d'Areola, Ludo.
Mais, Ludo, il a pas envie d'être remplaçant.
En Real, non, je pense pas.
Areola avait plutôt une
j'ai mon petit gardien polonais numéro 2 au PSG.
Non, attends, Fred, il a pas fait, il avait bien commencé, mais la saison, c'était plutôt mal terminé.
Non, mais attends, il faut expliquer le truc, c'est que, Asensio qui s'était fait les croisés est revenu, et donc il est redevenu numéro 2.
Et il a fait pas mal de bourdes en Europa League, notamment.
Et après, bah oui, mais parce qu'il y avait la concurrence d'Asensio. Donc le problème, c'est que ça a l'air d'être un gardien qui supporte la concurrence. Donc voilà, c'est vrai que quand on est le PSG, moi je ne comprends pas pourquoi le PSG n'a pas fait une offre. Alors on raconte aussi qu'il y aurait eu une offre au mois de juin-juillet et que Navas l'avait refusé, etc. Mais bon, en tout cas, le PSG peut signer des œufs fermés pour ce gardien
qui est
très fort, quoi. Voilà. C'est un type qui est arrivé au Real, qui a dû lutter justement d'élite sa gueule, c'est-à-dire qu'il n'est pas très médiatique, il est très fort, quoi.
C'est une mesure combien Navas? On dit qu'il est petit, mais.
C'est un 82, 83, non?
Ouais, c'est pas un gardien moderne. C'est pas un Alisson, un Thibaut Courtois, voilà. C'est ça aussi. Fred.
Oui, Ligue des Champions de suite.
Bien sûr, t'as raison.
Oui, mais c'est aussi un effectif, les gars. Moi, je veux bien. C'est un bon gardien. Il a contribué au titre, mais il avait aussi un effectif rodé, autour de lui. Tu peux gagner des titres avec un bon gardien.
Non, mais non, mais Nico.
C'est un débat qu'on a souvent, Fred.
Oui, mais le Real Madrid est une équipe ultra offensive, où en général, t'as 3 arrêts à faire dans le match, tu peux pas te planter. Moi, ça me fait marrer toujours, les gens, ils disent, ah, il est génial ce gardien. Ok, il a fait 3 arrêts extraordinaires. Bon, il en a pris 4. Tu vois ce que je veux dire? T'as peu de moments pour te montrer. Et quand tu te montres, il faut être bon.
C'est ça qui est dur. C'est ça la différence, entre un gardien moyen et un grand gardien. C'est que le grand gardien dans les équipes qui jouent dans des équipes qui dominent, il faut être présent sur un ou deux arrêts et il faut rester concentré. C'est très dur pour la concentration.
Fred, on va faire appel à toi. Tu es le doyen ce soir dans l'after, évidemment. Fred, on est un peu partagé. Gilbert, le grand patron de l'after, a lancé un nouveau jingle pour le Mercato. Et il y a l'ancien également que tu connais. On va les réécouter. On a lancé un sondage sur la page de l'After Foot. Il y a une tendance très claire. Lequel faut-il choisir? On écoute.
C'est combien?
30 000.
Attends, je vais te le marcher.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Voilà pour l'ancien, voilà pour le nouveau.
Écoute, je te dois 120 000 francs. La frite, elle est à 8 francs. La saucisse, à 12. Avec un coca, ça fait 30 francs. Écoute, tu peux venir déjeuner chez moi quand tu veux. Et le café, c'est moi qui l'offre. Je vais pas me taper pour 12 patates de merguez. Moi, ce que je fais, c'est mon pognon.
C'est vrai qu'il est bon, celui-là. Fred, On fait quoi?
Ouais, mais moi je suis.
Tu prends la vérité Sigement, toi, évidemment.
Mais si, j'aime beaucoup la vérité Sigement.
Mais voilà.
Mais les bronzés, c'est tellement mythique.
Merci.
Ça restera plus important dans ma vie que ces très bons films que sont la vérité Sigement. Enfin, tu vois.
T'es d'accord avec 67% des auditeurs de l'After.
Moi, je vais vous dire simplement, c'est parce que le jingle 30 000, c'est un jingle historique de l'After.
C'est ça.
Du moment du mercato. Donc, je pense que finalement, nous sommes conservateurs, tu sais, on aime bien.
Exactement.
Les vieux. Les vieux trucs.
Bon, merci, Fred. C'est le patron qui va décider.
On peut avoir une surprise au Real ou pas en fin de mercato?
En 10 secondes.
Ah, mais il y aura un joueur qui va arriver, c'est sûr. Et si c'est pas Neymar, de toute façon, au minimum, il y aura Van de Beek comme milieu de terrain. Pogba, ça va être compliqué. Mais il va y arriver. Il faut un milieu de terrain, ça, c'est sûr.
Merci, Fred. Excellent. Merci, Fred. Real, Valère.
Merci, Nicos. Salut, Fred. Et encore bienvenue, Nico. Hein.
Mais ça fait plaisir. Tellement plaisir d'être avec toi.
Comme chez lui.
Bien sûr. Jonathan Macardy. Merci.
Merci, Nicolas Jamin.
On part sur une belle saison. On va se marrer. Et on va parler foot, sérieusement aussi. Merci, Ludo. Quel
merci,
bonheur.
Nico.
Merci, Nico. Bordelais à mes côtés. J'ai toujours rêvé d'être avec un joueur des Girondins. C'est la première fois. L'After revient, bien sûr, demain à partir de 22h. Pour débriefer notamment la soirée de Ligue 1.
À demain,
merci, bonne soirée à tous.
RMC, l'After Foot.